Bien, merci, merci pour votre présence à cette rencontre, la deuxième de ce week-end que la librairie Mola a la générosité d'accorder aux 25 ans, au festin, à l'occasion du 25e anniversaire de la revue. Nous avons plusieurs parutions nouvelles à cette occasion-là, notamment le tout dernier numéro consacré à la gastronomie qui vous sera présenté demain, dimanche. À 17h30, je crois, nous présentons le deuxième hors-série Bordeaux Métropole ainsi que les cahiers de la métropole bordelaise que nous réalisons avec l'agence Aurba. Et puis, présentement, nous sommes réunis pour parler de trois ouvrages qui se trouvent être publiés dans une même collection intitulée La collection des cahiers de l'éveilleur et qui a pour but essentiellement de faire ressurgir ou reconnaître des œuvres du patrimoine littéraire aquitain. L'actualité présente, c'est la réédition de l'ouvrage de Jean Bald, La maison au bord du fleuve, Souvenirs bordelais, préfacé par Jean-Marie Plane. Mais c'était aussi pour nous l'occasion, l'opportunité et le bonheur, je dois dire, de reparler de deux autres titres publiés précédemment et qui nous sont extrêmement chers. Les Espagnes de Louis Aimier, préfacé par Ivarte, qui est avec nous, et puis De la sincérité envers soi-même de Jacques Rivière, dont nous parlera Agathe Cor-Rivière. Alors, Jean-Marie Plane, on ne vous présente plus, donc je ferai l'économie de quelques mots, sinon pour dire que pour moi, vous avez été...
Vous voyez comment c'est, vous voulez faire des économies, du coup vous
Et oui, mais j'en rajoute, voilà, c'est toujours comme dire, ça, on veut faire des économies, on dépense non, plus, mais... c'est le drame français. Sinon, pour dire que je suis très heureux que vous ayez accepté de republier cette préface, puisque... elle avait déjà été éditée par notre ami Jacques Sargos à l'Horizon Chimérique il y a à peu près 20 ans. C'est un très beau texte, donc il n'y avait rien à changer.
Plus que ça, 90. Donc c'est pratiquement... c'est pas 90 ?
Écoutez, si, oui, en tout cas c'est au moins 20 ans. Hein,
c'est pratiquement l'âge du festin.
L'âge du festin, oui, oui, tout à fait. Absolument, dans cette belle collection de mémoires co-dirigée par Éric Audinet à l'époque et Jacques Sargos. Alors, ce qui est intéressant, je crois, dans le fait que ce soit vous qui ait écrit cette préface, et ce n'est pas étonnant si Jacques Sargos et Éric Audinet ont pensé à vous, c'est par le lien qui vous rattache à Jean Bald via votre père. Donc peut-être que tout simplement vous pouvez nous présenter Jean Bald à votre façon.
Tout de suite.
Sans attendre.
Alors, voulez-vous que je parle du lien qui existait avec mon père, évidemment.
Oui, bien sûr.
Oui. C'était intéressant, ce livre dont le sous-titre, La maison au bord du fleuve, dont le sous-titre est Souvenirs bordelais, parce que c'est un livre qui paraît en 1937, c'est ça ?
Oui.
Jean Bald va mourir en 38, donc c'est le dernier livre de Jean Bald. Et ses souvenirs, bien sûr, ce sont les siens, ce sont ses souvenirs d'enfance, mais ce sont aussi les souvenirs d'enfance de sa mère. Et le livre s'ouvre à portée de la grand-mère, ce sont aussi les souvenirs de la grand-mère. Et je trouve que mon père avait fait la connaissance de Jean Bald, était devenu ami avec Jean Bald. Alors moi, je ne l'ai pas connu, parce qu'elle meurt en 38, c'est pas tout à fait né. Mais d'ailleurs, on ne pense même pas à moi du tout à ce moment-là. J'ai entendu parler. Et dès que j'ai commencé à entendre, justement, de Jean Bald. Et mon père en parlait beaucoup. Il avait une grande admiration pour elle. Il avait, je crois que la préface commence comme ça, n'est-ce pas ? Il avait dans son bureau, qui était un bureau très, très impressionnant, avec tapissé de livres jusqu'au plafond. Pierre Veillet avait été très, très impressionné la première fois qu'il est entré dans ce bureau. Il y avait énormément de livres, bien sûr, il y avait énormément de portraits. Il y avait des portraits de Francis Jam, il y avait des portraits de Pie XII, des portraits du maréchal Lyautey, des portraits, il y avait toutes sortes. Bien sûr, mon père était royaliste, des portraits du duc de Guise et du comte de Paris. Et puis, il y avait un portrait de femme, et c'est de ce portrait que je parle immédiatement, parce que dès l'enfance, je vois ce visage de femme qui est un beau visage, mais un visage un peu lourd, un peu épais. C'est pas Angelina Jolie. Et puis, alors, mon père parlait tout le temps de Jean Bald, avait une vraie admiration pour elle. Au moment où j'étais étudiant, il s'est agi de faire un travail de recherche, je ne sais plus quel était le nom exact, diplôme d'université. Enfin, il voulait absolument que je consacre ce travail juste après la licence et avant l'agrégation, que je le consacre à Jean Bald. Bon, évidemment, je l'ai déçu comme assez souvent, j'ai choisi autre chose. Et donc, j'ai l'impression, si vous voulez, d'hériter un peu. Voilà, de la mémoire de Jean Bald. Il y a la grand-mère de Jean Bald, la mère de Jean Bald, il y a Jean Bald, mon père et moi. Et j'ai relu pour vous, Xavier, la maison au bord du fleuve. Et je me suis aperçu évidemment que une grande partie des gens dont elle parle dans ses souvenirs, bon, je ne les ai pas connus, mais j'ai connu leurs enfants, même certains. Dans un passage, elle évoque la famille Samazeuil. C'est-à-dire, pour partie, la famille d'Éric Audinet, que vous citiez tout à l'heure. Eh bien, elle parle d'un des jeunes Samazeuil, à la fois journaliste et sportif très brillant, c'est Jean Samazeuil. Et voilà, je l'ai connu. Donc oui, j'ai l'impression d'être dans la filiation directe, l'héritier de Jean Bald.
Jean Bald avait fait une préface pour l'ouvrage de votre père.
Alors, il faut savoir si tu désires que la communication soit aussi fluide que possible avec l'assistance, à ce moment-là, il faut utiliser le « vous ». Et tu veux... Parce que le « tu » bloque, n'est-ce pas ?
Alors... Ivart est un peu jeune, il ne connaît pas les rouages.
Il fait de la télévision, il faut faire de la télévision. Mais moi, j'aimerais mieux le tu, étant donné la fête, l'anniversaire.
Tutoyons-nous, voilà.
Alors, mon père a écrit un livre sur Bordeaux avec, en effet, une préface de François Mauriac et un avant-propos de Jean Bald. Voilà, et un avant-propos de Jean Bald, absolument exact. C'est un très beau livre avec de belles illustrations, non pas d'un Samazeuil, mais de Jacques Le Tanneur. Mmh. Je suis sûr que vous avez publié des articles sur Jacques Le Tanneur.
Oui, nous en avons parlé tout à l'heure à propos du vrai chic bordelais. Oui.
Voilà. Et c'est un très beau livre qui passe dans les ventes. Il faut l'acheter si on peut, c'est un peu cher. Mmh.
Bon. Alors quand même, donc, Jean Bald, de son vrai nom, Jeanne Allemand. Peut-être pouvez-vous préciser un petit peu le portrait de cette femme.
Et d'abord, c'est ce qu'on appelle depuis que Michel Suffren s'est emparé de cette expression qui existait avant, mais qu'il a appliquée à une génération d'écrivains bordelais, c'est ce qu'on appelle la génération perdue. C'est-à-dire, ce sont les écrivains qui sont nés autour de 1885, qui est l'année de naissance de François Mauriac, qui est l'année de naissance de Jean Bald. Mmh. Alors, Jacques Rivière va arriver un peu plus tard.
86,
voilà. André Lafont arrive un tout petit peu avant, je crois, deux ans avant. Cette génération d'écrivains qui naissent autour de l'année 1985, qui pour beaucoup sont liés... Alors, je vais peut-être pouvoir lire tout à l'heure... un texte que j'ai porté de Mauriac et qui est un texte complètement inconnu. Peut-être Jean-Claude Drago qui était là, mais qui est parti, le connaît-il. Et peut-être le connaissez-vous, bien sûr. Mais cette génération d'écrivains était une génération tout à fait singulière, assez brillante, et évidemment qui a été, mais comme une grande partie des Français jeunes, fauchés par cette guerre horrible, ce massacre horrible dont on célèbre le, le centenaire. Et alors, évidemment, ont survécu les écrivains qui ne sont pas allés au combat, c'est François Mauriac, et les femmes, c'est Jean Bal. Donc, mais alors, bon, je ne sais pas si je vais faire une conférence sur Jean Bal, il faut quand même... il y a à la fois des liens d'amitié très forts entre François Mauriac et Jean Bal, des liens d'amitié tels que Jean Bal, étant, ayant fait ses études au cours Ruello, et qui se trouvait cours Tourneau à Bordeaux, qui n'existe plus, qui était une institution pour jeunes filles de bonne famille. Et il se trouve, c'est un des liens supplémentaires que j'ai enseigné au cours Ruello dans les dernières années d'existence de l'institution. Mais moi, mon ami Séverine Pacteau, Alain Ricard, Africaniste, nous avons tous enseigné au cours Ruello. Et donc Jean Bal avait fait ses études au cours Ruello, est devenu ensuite professeur au cours Ruello. Et au cours Ruello, moi j'avais toutes mes cousines comme élèves. Et bien elle avait une jeune élève qui s'appelait Jeanne Lafont, qui n'avait rien à voir avec André Lafont, et qu'elle a présenté à François Mauriac. Et l'élève de Jean Bal, de Jeanne Lafont, est devenue Madame François Mauriac, est devenue la femme de François Mauriac. Du même coup, Jean Bal a été la marraine de Luce, une des filles de Mauriac. Et donc, il y a évidemment des liens très, très étroits entre tous les membres de ce groupe, la Génération perdue. Il y a donc l'histoire complexe d'amour entre Jean Bald et André Lafont. Je ne sais pas s'il y a lieu d'entrer dans les détails.
André Lafont, dont vous avez préfacé la réédition, Le Lève Gilles, il y a un an et demi.
Si tant est qu'on les connaisse, bien entendu, oui. et on ne les connaît pas bien. Et il y a des hypothèses de toutes sortes, des interprétations. J'ai eu un débat avec Michel Suffren la semaine dernière, qui lui a son idée. Jean Lacouture, dans sa biographie de Mauriac, a une idée. Et Jean-Luc Barret, dans sa biographie de Mauriac, a une autre idée. Il y a ce que dit Jean Bal. Bon, il s'est passé quelque chose et cette chose-là ne s'est pas bien passée entre André Lafont. Donc c'est une génération où tout le monde se connaît, tout le monde se rencontre, tout le monde. Quelquefois, on s'aime et puis on meurt. Alors, elle, évidemment, il y a un de ses livres qui s'appelle La Survivante. Elle est la survivante. Et elle va avoir une carrière d'écrivain qui est à la fois une carrière... Ce n'est pas la carrière de François Mauriac, naturellement. Elle n'a pas le prix Nobel. Elle n'entre pas à l'Académie française. Mais ce n'est pas une carrière absolument obscure. C'est-à-dire qu'elle obtient le prix féminin Northcliffe pour un roman qui se passe dans le Bazadais qui s'appelle Reine d'Arbieux. Elle obtient un prix de l'Académie française pour je ne sais plus lequel autre de ses livres. C'est une romancière. Et même aujourd'hui, ça m'amuse quand on dit Jean Bald, ça a été écrit récemment. Jean Bald, romancière oubliée et oubliable. Elle n'est pas du tout oubliable parce que c'est une romancière d'un vrai talent. C'est ce qui distingue le talent du génie. Mauriac a du génie et Jean Bald a un vrai talent. Et puis, ce n'est pas une romancière oubliée du tout. Vous n'avez qu'à interroger n'importe quel bouquiniste qui vous expliquera que ça fait partie des livres qu'il vend de façon très régulière. Si cette semaine, vous aviez ouvert le grand quotidien de la formation régionale, c'est prestigieusement représenté à cette table, bon, vous auriez pu lire un entretien avec le kiosquier. Alors, j'ai découvert ce nom, kiosquier. Je ne sais pas si l'Académie française l'accepte. Depuis longtemps ? Bon. Donc, un monsieur qui tient un kiosque de journaux en bas du...
Ils ont intérêt à l'accepter parce que ça va disparaître. Donc,
oui, c'est en général à ce moment-là qu'il faut entrer les mots dans la langue. Le kiosquier du bas du cours Georges Clémenceau, qui prend sa retraite au coin de la rue Grille. Alors, il est là depuis d'assez nombreuses années. Tout le quartier le connaît. Mmh. On lui demande, le journaliste de Sud-Ouest, vous l'avez dit, lui demande ce qu'il lit actuellement, puisqu'il déclare aimer énormément la lecture. Et il ne lit pas Valérie Trévelert, il ne lit pas... comment il s'appelle, le Royaume.
Non, non, Carrère.
Avec Zemmour, Emmanuel Carrère, il dit, je lis avec un intérêt passionné le roman de Jean Balve qui s'appelle Le Goéland, qui est paru en 1926. Donc, ce n'est pas du tout un écrivain oubliable. C'est un écrivain. Il y a une phrase dans le livre où elle dit ceci, j'ai fait amitié avec le travail. Donc, c'est un écrivain laborieux. Mais enfin, nous allons parler de Louis Aimé. Oui. C'est exactement la même chose. Qu'est-ce que dit Max Jacob à Louis Aimé ? Travaillez, travaillez. Et la réussite littéraire, ça repose sur le travail. Donc, ça a été quelqu'un qui a énormément travaillé dans sa vie, qui a été partagé entre le travail d'écriture et puis le travail d'enseignement, puisqu'elle avait besoin d'argent. Elle n'a pas pu vivre, à l'inverse de Mauriac, de ses livres. Et moi, je trouve que c'est un écrivain extrêmement intéressant.
Oui, et alors en relisant effectivement pour préparer cette réédition, même pour l'aborder et l'envisager, moi j'ai été saisi, puisque je n'avais pas lu depuis longtemps, que c'est une écriture qui n'est pas du tout datée, contrairement à ce qu'on peut imaginer, et beaucoup de littérature de cette époque-là ne passe pas le cap d'une lecture au XXIe siècle. Et c'est à la fois des souvenirs et en même temps, effectivement, elle rapporte des anecdotes qui constitue tout un monde, et c'est ça qui est assez séduisant, cette immédiateté d'être dans un temps à la fois passé, et en même temps, on a choisi en couverture ce beau tableau d'Alfred Smith. Voilà, en réalité, bon, le tramway a un peu changé, mais il passe toujours là, les colonnes rostrales sont là, etc. Alors, le titre, c'est La maison au bord du fleuve, et j'aurais une dernière petite question avant de passer la parole à nos autres invités. La maison au bord du fleuve, laquelle est-elle pour vous ? Car il y en a plusieurs dans le livre.
Oui, mais alors...
Est-ce que c'est celle qu'on suppose ?
Si vous voulez qu'on parle de la couverture, évidemment, nous allons entrer dans un débat très personnel.
Non, ne parlons pas de la couverture. Moi, répondez à ma question.
Je suis absolument consterné par les couvertures du festin. Elles ne correspondent jamais à ce que je souhaite. Jamais. Sauf celle de Jacques Rivière. Ça, c'est un magnifique portrait qui n'est pas celui de Jacques Rivière, qui est un portrait de qui ?
Ça, c'est, Valotto.
Je ne m'en rappelle plus. Je ne me souviens plus.
Hein ? Véronique.
Alors.
C'est marqué.
Véronique.
Alors, c'est très beau.
Alors, parlons de la maison de Jean Balle, s'il vous plaît.
Oui.
mais quel rapport, d'ailleurs ?
Parce que...
Pardon, c'est Émile Friant. Émile Friant, peintre lorrain.
Parce que déjà, nous avons eu une querelle à propos de la couverture de l'élève Gilles. C'est une laideur.
C'est un succès.
Et là, Xavier m'a proposé.
Elle plaît beaucoup à Agathe,
qui a
beaucoup de goût.
Plaisir. Il est boutonneux, il est
s'il
dans
vous plaît, Jean-Marie, parlez-nous de la maison de Jean Balle.
Il a 16 ans alors que le héros en a 11. Oui, mais nous sommes dans le même contresens, justement.
Mais quel rapport avec la couverture ?
Mais tu vas voir, laisse-moi finir mes phrases. C'est un contresens. La maison au bord du fleuve, évidemment, c'est la maison de la traîne. C'est évidemment la maison de la traîne, pas du tout la place de la Bourse. Et donc, vous avez des maisons au bord du fleuve, c'est le Cazin, c'est cette maison qui se trouve dans cet endroit absolument merveilleux que nous allions nous promener quand on était jeunes, à vélo, ça, qui s'appelle le chemin du bord de l'eau, à la traîne, où il y a toute cette accumulation extraordinaire de chartreuses plus jolies les unes que les autres, dont une exceptionnelle, qui est Valrose, et qu'elle évoque. Et le Cazin était tout à fait à l'extrémité de cette route, et le Cazin a disparu, il n'existe plus. Mon père disait que c'était une jolie maison, un peu mal entretenue, avec un toit un peu moussu, mais que ça avait beaucoup de charme. Mais ça a été... Il y a eu l'histoire du pylône, on a construit un pylône. Elle a écrit,
la maison et le pylône.
Le pylône et la maison, la maison et le pylône. Elle a beaucoup souffert à la fin de sa vie de ça. Et puis, le pylône est là, mais la maison a été rasée. Donc la maison au bord du fleuve, c'est celle-là. Alors, il vous est tout à fait loisible de penser que c'est la maison de la place de la Bourse et de choisir le tableau d'Alfred
Smith. Tout commence quand même place de la Bourse, admettez-le.
Tout commence place.
Le livre, en tout
de
cas.
De la Bourse. Alors, ce qui est, et puis après, on va quand même donner la parole à Yves Arthès, parce qu'il est là, il boue, il s'impatiente, il n'en peut plus. Il s'ennuie. Il s'ennuie énormément.
Mais pas du tout, je suis fasciné par ce que tu racontes. Je trouve que la poésie embrumée de la couverture va magnifiquement et donne une espèce d'incertitude sur ce qu'on va lire, que je trouve magnifique. Moi, je ne connaissais, enfin, je connaissais pas du tout ce livre, je l'ai lu, j'ai été passionné. J'ai noté également que tu as un point de désaccord entre Jean Balde et toi qui concerne les hangars. Elle déplore que les hangars puissent naître et toi, tu déplorais que les voir disparaître. Donc, j'ai trouvé l'intérêt tout à fait moderne, tu vois.
Oui, enfin, faut quand même nuancer. Moi, j'ai retrouvé un article de Sud-Ouest, disons cela, où Chaban a annoncé qu'il allait démolir. C'était lors d'une présentation du salon du livre, le troisième, le quatrième, à l'hôtel de Lassé. Et Chaban a annoncé à ce moment-là qu'il démolirait tous les hangars, sauf le 5 et le 7, c'est-à-dire les deux hangars très bas, pas gênants à mes yeux, et où le salon du livre se tenait. Donc, c'était pour qu'on conservât ces hangars-là. Mais naturellement, on pouvait démolir tous les autres. Et il y a un passage très étonnant dans la maison au bord du fleuve, où, en effet, elle s'indigne de la laideur de ces hangars, ces blocs de béton qui sont tombés là. Elle dit ce serait tellement beau s'il y avait des jardins. Et une des choses qui me rend triste, c'est que Jean Balde ne voit pas elle les voit, peut-être. Je sais pas. Et je veux juste dire une dernière chose à propos de la place de la Bourse, c'est que, bien sûr, je suis contre vos couvertures, et aussi, en relisant la préface, il dit, tiens, mais il y a une phrase qui a sauté, là, quand même, une phrase qui manque. Pas du tout, parce que j'avais retravaillé le texte pour autre chose, et la phrase... Non, vous avez repris la préface, ouf, telle qu'elle était. Mais j'avais rajouté pour une autre publication, une indication disant que c'est un lien supplémentaire avec ce livre, c'est que mes grands-parents maternels ont habité Place de la Bourse, ont habité cette maison-là, et que ma mère me racontait des souvenirs de la Place de la Bourse qui était pas cet espace minéral qu'elle a été ensuite et un peu abandonné, un peu avec les voitures, pas le miroir d'eau d'aujourd'hui, qui était un endroit où on vivait, où il y avait un bar. Ma mère et ma tante allaient au cours Lacroix, qui se trouvait sur le pavé des Chartrons, à pied. Le chien du bar de la place de l'Arbourg suivait les deux petites filles jusqu'au cours Lacroix. Pourquoi ? Parce qu'elle s'arrêtait entre les colonnes rostrales d'Alfred Smith, de la couverture. Elle s'arrêtait là pour acheter un cornet de marrons. Et elle mangeait des marrons, elle en donnait aux chiens.
Je crois que ma vie racontait ça, et c'est pourquoi j'insistais pour cette couverture.
Donc, en effet, c'est un lien supplémentaire, le fait que mes grands-parents aient habité là. Donc, cette couverture, elle est magnifique.
Merci, merci Jean-Marie. On reviendra tout à l'heure, à la fin, peut-être, si vous voulez, pour lire l'extrait.
Texte de Montréal que je veux absolument lire.
Absolument, et je rappelle à l'assistance que vous interviendrez de nouveau chez Mola, vous et vous tout seul, pour parler de Jean Balde, avec David Vincent en janvier, je crois. Il faut regarder le programme de la librairie. Et pour terminer, effectivement, c'est un livre où il y a quand même plusieurs maisons. Il y a celles que vous avez évoquées, puis il y a aussi des maisons de vacances. Il y a des maisons sur le bassin d'Arcachon, le lieu du Goéland, par exemple. Voilà. C'est ça qui est assez beau dans ce texte, c'est qu'on voyage aussi dans une poésie géographique. Voilà.
Une poésie géographique très forte, parce que les romans de Jean Balde sont tous un peu situés dans... Alors, il y en a La Reine Brûlante, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça se passe en Médoc. Reine d'Arbieu se passe dans le Bazadais. Le Goéland se passe sur le bassin d'Arcachon. La Vigne à la Maison, c'est plutôt Bordeaux, la société des négociants. La Maison Barbusée, c'est une autre partie du Médoc. Et donc, on trouve tous ces endroits qui sont notre pays. Et on ne parle pas encore de région Aquitaine à ce moment-là. C'est plutôt la Gironde. monde, d'ailleurs. Ça va pas très, ça va pas, il n'est pas question de la côte basque, du tout. Mais on retrouve tout ça, c'est comme si elle rassemblait les éléments de son œuvre et les lieux de son œuvre et de sa vie dans son dernier livre.
Alors, un autre auteur... Qui a connu une destinée aussi assez tragique, même s'il est né en 86, je ne crois pas qu'on puisse le rattacher à la génération perdue, qui a eu un sort prestigieux dans la mesure où il a participé à la création de la Nouvelle Revue française. Lui, il est parti de Bordeaux, il a habité Paris, à la différence de Jean Bald, et on le verra tout à l'heure, de Louis Aimier, c'est donc Jacques Rivière, ton grand-père, je ne sais plus comment on fait.
Agathe. Je pense que vous voulez couper la communication.
Et de la sincérité envers soi-même, avec ce très beau titre, et puis je dois dire quand même cette très belle couverture, et là, nous sommes unanimes, donc d'Émile Friant, est un texte particulier composé de trois fragments, trois parties, qui en définitive font véritablement une espèce d'introspection. C'est pourquoi on a choisi cet autoportrait, dont je vous laisse le soin, Agathe, de le présenter.
Jacques Rivière, d'abord. Jacques Rivière est donc effectivement mon grand-père. Je ne sais pas si tout le monde m'entend.
Il faut s'approcher.
Donc Jacques Rivière est effectivement mon grand-père. Moi, je dis qu'il fait partie de cette génération perdue. Ils sont tous nés en 85 ou 86. Ils ne se sont pas forcément fréquentés à Bordeaux, même s'ils ont... arpenté les mêmes rues, sont allés dans des lieux très similaires. Ils font partie de cet univers bordelais. Ils sont élevés par cette ville. Ils sont pétris tous de cette ville. Quand vous parlez de la couverture de Jean Bald, mon arrière-grand-mère, la mère de Jacques Rivière, avait représenté, elle peignait très bien. Elle avait fait des tableaux et des dessins au fusain de la place de la Bourse aussi, des colonnes rostrales. C'est un univers qu'il a arpenté aussi, Jacques Rivière. Il raconte dans les beaux jours ses balades, ses promenades jusqu'au bassin à flot, sur les quais. Ce port est très important pour tous. Il est important pour Jean de la ville de Miremont, il est important pour Saint-Jean-de-Perse, il est important pour Jean Bald. Ils font partie tous de cette génération. Et ils ne vont se retrouver finalement qu'à Paris. Mauriac et Rivière ne se fréquentent pas du tout à Bordeaux. Ils vont même être séparés volontairement par leur ami commun, qui est André Lacaze, qui va prendre un malin plaisir à dresser l'un contre l'autre, en quelque sorte. Ils ne font pas partie tout à fait de la même société. Et ils ne se retrouveront finalement qu'une fois à Paris, une fois... ayant émigré et quitté leur ville, Jacques Rivière en secouant la poussière de ses souliers. Oui. Mauriac un petit peu, il a insisté pour quitter Bordeaux lui aussi et aller s'installer à Paris. Donc ils vont se retrouver à Paris et ils vont se rejoindre à Paris. Ils vont vraiment se rencontrer, voilà, se retrouver. Et même si je ne sais pas s'ils ont vraiment parlé de tout ça, de tout ce dont ils venaient, de leur ville, de ce que leur ville leur avait apporté, mais je pense qu'ils en étaient conscients et que ça permettait cette rencontre et ces retrouvailles et ces liens. Donc Jacques Rivière, il est né en 1886. Il est d'une famille à l'origine assez simple. Son père va devenir professeur de médecine. Il va y avoir une volonté très très importante chez son père de ne pas retourner en arrière. Donc c'est ce qui va entraîner la rupture entre son père et lui lorsqu'il va choisir d'épouser celle qui n'est que la fille d'un petit instituteur de Sologne, qui est donc la sœur d'Alain Fournier. Et il va perdre sa mère en 1897. Et c'est un moment très dur, très, très compliqué, une blessure qu'il va garder tout au long de sa vie. Donc ce texte de la sincérité envers soi-même, il y a donc dans ce livre trois textes différents. Deux textes qui ont été écrits en 1912 pour la NRF, pour de la sincérité envers soi-même. Il y en a un autre qui s'appelle « De la foi ». Et le troisième, ce sont des extraits de ses carnets de captivité. Et ces trois textes expriment sa volonté d'introspection, vous l'avez dit, d'analyse de lui-même. On considère toujours Jacques Rivière comme quelqu'un de cérébral, d'intellectuel, qui c'est André Lacasse justement qui dit que la chose la plus importante pour lui, ce n'était pas tellement de vivre, c'était surtout de comprendre. Mais de la sincérité envers soi-même se termine quand même par cette ode à la vie et cette volonté que une fois qu'on a fait qu'on a bien mis tout à plat à l'intérieur de son âme, qu'on sait exactement ce qu'il y a dans son âme, la chose la plus importante, c'est vivre. Il est mort à 38 ans, on a l'impression qu'il a un peu brûlé tellement intensément qu'il ne pouvait pas vivre plus longtemps. Voilà, ça s'est arrêté. Donc il y a effectivement une quête religieuse tout au long de sa vie qui a entraîné une querelle très violente après sa mort entre sa veuve. François Mauriac, qui a participé, qui a réfléchi aussi et qui dit des choses très, très justes et très belles là-dessus. Et donc entre ces personnages-là et puis ceux de la NRF qui vont lui succéder, Paulhan, Schlimberger, etc., qui ne voyaient pas Jacques Rivière comme ça. Je relisais tout à l'heure la préface d'Éric Desgarais. Et il disait une chose très juste, c'est que Jacques Rivière est écartelé entre deux entités, deux personnages, deux vies, deux conceptions. Quand il est à Bordeaux en 1906 et 7, il est obligé de rentrer à Bordeaux après être allé à Paris pour faire sa licence, il va découvrir Paul Claudel. Et c'est vrai que toute cette phase où il reste à Bordeaux, il est envahi de toute cette parole de Claudel. Et à Bordeaux, il rencontre Gabriel Friseau qui le renvoie à Paris, et à Paris, il va rencontrer André Gide. Bon, c'est vraiment deux images très, très opposées, très différentes. Et toute sa vie, il va essayer de concilier les deux sans jamais y parvenir, en fait. Je pense que c'est ça qui le caractérise le plus.
Ce qui est très frappant dans ce texte d'une grande modernité, alors tout à l'heure je disais que Jean Bal n'était pas daté, le texte de Jacques Rivière est moderne à la fois dans l'écriture et aussi dans la pensée. Ça c'est assez étonnant, c'est aussi un texte très intense. Et on a presque l'impression, alors qu'il n'y a pas de... Il a été réuni par Isabelle Rivière, le recueil, c'est pas de son vivant, je crois,
les trois chasses ensemble. À l'orgueil. Ah non, ils n'ont jamais été réunis. Ils sont réunis là.
Jamais. Ah bon, d'accord.
Isabelle avait réuni, c'était les extraits de ses carnets de captivité dans lesquels cherché toute la quête de Dieu.
Mais il y avait l'ensemble quand même qui était présenté dans une édition.
Une édition, il y a de la foi.
J'ai pas l'impression d'avoir été pionnier, c'est pour ça.
Voilà. Mais pas de la sincérité.
Pas de la sincérité. Alors, et pourtant, donc c'est peut-être pour ça qu'on est arrivé à ce choix. C'est presque comme si ça faisait vraiment un ensemble qui aurait été voulu par Jacques Rivière. Il y a une évolution dans le temps, vous l'avez rappelé. Donc au début 1912, c'est quand même un très jeune homme. Et après, il y a l'épreuve de la captivité. Il y a les exigences, parfois assez orgueilleuses. Et ce n'est pas un hasard. C'est le troisième texte, celui de la captivité, s'appelle « Chasse à l'orgueil », comme s'il s'éprouvait lui-même. Et il y a une remise en question qui est assez sidérante. Et y compris alors le passage sur la foi là qui reste avec toute son énigme aujourd'hui. Donc c'est un livre à multiples entrées et donc cette expérience de la captivité a remis à plat beaucoup de choses pour lui. Comment notamment par rapport à la foi et puis par rapport à cette formation.
Alors Je dirais que toute sa vie est une remise en question permanente de ce qu'il est, de ce qu'il ressent, de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait. Et c'est quelqu'un qui est très insaisissable pour certaines personnes parce que effectivement, on a l'impression qu'il ne sait jamais précisément. Et quand il sait, il assimile et puis il passe à autre chose. Et donc, quand on le lit, on ne sait plus trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop vraiment ce qu'il pensait. Et effectivement, dans les carnets de captivité, dans ce livre qui s'appelle « Chasse à l'orgueil », qui a été réuni par sa veuve, par ma grand-mère, après la guerre, tous les carnets évoquent cette remise en question. Il s'est retrouvé donc fait prisonnier le 24 août 1914, c'est-à-dire vraiment au tout début de la guerre. Et il va être prisonnier jusqu'en 1917, date à laquelle il sera rapatrié sanitaire en Suisse. Et donc, il a la possibilité, dans le camp, d'écrire. Il fait un travail pour les autres, en général, très, très important, qui a beaucoup compté pour les autres prisonniers, puisqu'il lit des livres, et leur en fait des commentaires, il les explique, etc. Et donc, il va passer toute la guerre à faire une introspection complète sous le coup de la honte, en fait. Ce qu'il ressent en premier, c'est ça. C'est la honte d'avoir été fait prisonnier, de ne pas pouvoir donner sa vie pour la France à l'égal de ses compagnons et de son beau-frère, hein, qui est tué le 22 septembre 1914.
Vous pouvez peut-être rappeler qui est son beau-frère.
Voilà. Oui, Alain Fournier, je l'ai dit tout à l'heure.
Alain Fournier.
Et donc oui, il va s'analyser complètement. Mais il a déjà commencé depuis très longtemps, en fait. Hein. Il a commencé adolescent, encore à Bordeaux. C'est ce qui le caractérise.
Merci. Troisième ouvrage.
Est-ce qu'on peut dire une chose ?
Oui, allez-y, Jean-Marie.
Ouais, c'est bien fait, Louis-Aimé. Mais et quand même, votre grand-mère a eu un rôle déterminant dans la postérité de Jacques Rivière et dans la postérité de son frère, Alain Fournier. Et en même temps, je n'ose pas dire que c'était une veuve abusive et une sœur abusive, mais quand même, n'est-ce pas ? Elle a essayé de cacher énormément de choses de la vie d'Alain Fournier, et elle fait partie, avec Mauriac, de ceux qui ont essayé de convertir absolument à toute force Jacques Rivière. C'est pas vrai, ça ?
C'est très difficile à...
Oui, parce qu'on m'a réalisé ce film, mais est-ce que vous croyez à la conversion de Jacques Rivière et du retour au catholicisme, en tout cas, une conversion pascalienne ? Je ne sais pas, mais en tout cas, évidemment, Mauriac a voulu absolument qu'on le croit, et Isabelle Rivière aussi, d'une certaine façon. Et il me semble que oui, mais on ne peut être que très prudent.
Je n'étais pas dans l'esprit de mon grand-père.
Et oui.
c'est toute la difficulté de la chose. C'est qu'effectivement, Mauriac ou Isabelle font partie de ces écrivains, de ces intellectuels de l'entre-deux-guerres qui sont, qu'on appelle les nouveaux convertis, hein, qui sont très, très attirés par cette religion et qui vont... voir obligatoirement dans ce qui les entoure des choses qui sont liées à Dieu. Je pense que ça a été une quête permanente dans la vie de Jacques Rivière.
Ah oui, ça,
et même si dans la deuxième partie de sa vie, après la guerre, quand il revient et qu'il devient directeur de la NRF, où là il est écrasé de travail, je pense qu'il n'a plus vraiment le temps de penser et de réfléchir et d'écrire ce qu'il ressent, je pense que... Et bon, ça ne peut pas s'arrêter comme ça. Enfin, cette quête ne peut pas s'arrêter. Et qu'elle continue sous une autre forme, après qu'il soit revenu dans l'Église telle qu'elle était à l'époque. Non, j'ai des doutes sérieux.
C'est un livre du doute, quand
oui.
même.
Oui, et pourtant, il dit qu'il n'aime pas le doute.
Mais oui, mais ouais. ça, c'est, ouais. il y a aussi...
Que c'est facile,
c'est ça
le
aussi,
doute.
Que, comme ça a été écrit dans la durée, il y a aussi des contradictions.
Oui, bien sûr, hein, oui. Voilà. Oui.
évidemment.
Molle oreiller.
C'est, en tout cas, c'est un texte court, mais oui. Passionnant. Et à chaque fois que je le relis, je trouve des choses
différentes.
Oui. Alors, dans un tout autre genre, c'est comme le livre d'André Lafont. Il faut vraiment lire plusieurs fois et mot à mot. Et on a des découvertes très différentes à chaque fois. Cette fois-ci, Jean-Marie Plane, si vous m'y autorisez, je vais laisser la parole à Yves Arthé pour évoquer un écrivain qui nous est cher, Yves et moi, Louis Aimier.
Ah, n'oublie pas Jean-Marie, alors, c'est très cher à Jean-Marie aussi.
Et à Jean-Marie
enfin, moi,
également.
On ne m'a pas demandé de préface du tout, et je n'ai pas soutenu brillamment, c'est la chose que j'ai apprise hier, hein, pas, ou ce matin, soutenu brillamment un quoi. La mémoire.
Rien du tout.
Les deux spécialistes de Louis Aimier à la table.
Laissons parler Yves Arthé. Donc, Louis Aimier, nous avons l'habitude avec Yves, effectivement, de faire une espèce comme ça de tourner des librairies et des assemblées défendre.
Comme Buffalo Bill, exactement. Fin de sa carrière.
Et Sarah Bernard. Vous faisiez partie du même.
Mais avec nos deux jambes. Pour défendre les couleurs donc, de Louis Aimier, notamment de ses Espagnes. Le Festin a déjà réédité les dialogues avec Mac Jacob il y a quelques années. Un recueil de textes sur Bordeaux et l'Aquitaine qui s'appelle Aquitaine au pluriel. Et cette fois-ci, Espagne au pluriel est véritablement un recueil voulu par Louis Aimier, qui est un écrivain sûrement pas oubliable, malgré tout un peu oublié, et qu'il faut peut-être de nouveau présenter rapidement, Yves.
Oui, alors si on doit le présenter par rapport à ce qui vient d'être dit, à ce Bordeaux qui a été évoqué à travers vous et à travers ce que Jean-Marie a pu dire sur Jean Bal, c'est passionnant parce qu'en même temps que vous parlez, j'étais en train d'essayer de considérer quelle était aujourd'hui dans le rapport moderne, quelle serait la différence d'âge qui existerait entre Louis Aimier et cette génération-là. Et en fait, contrairement à ce que j'imaginais, c'est 15 ans finalement, c'est peu. Mais en revanche, ce qui est fondamental et qui va demeurer et qui, à mon avis, va être extrêmement constitutif de leur façon d'exister ensuite dissemblable et d'évoluer d'une façon dissemblable, c'est que la génération de Rivière, la génération de Jean Bal, qui en parle d'ailleurs dans le livre qu'a préfacé Jean-Marie, La maison au bord du fleuve, y compris dans la pensée de Mauriac, était la constitution patriotique dans laquelle ils ont été élevés. Or, cette constitution patriotique les amène, hommes et femmes, à l'orée de la guerre. Tandis que Louis Aimier, même avec 15 ans de différence, alors qu'il existerait moins aujourd'hui ce dysfonctionnement entre des gens de cette génération, imaginez quelqu'un qui soit né en 1984, quelqu'un qui soit né en 2000, ça n'existerait pas de la même façon. Or, ce qui se passe avec Louis Aimier, c'est qu'eux, ils arrivent enfants dans cette guerre-là. Ils arrivent, Louis Aimier est né, c'est facile de se souvenir, il est né en 1900. Donc, il arrive à 14 ans, donc c'est un pré-ado, comme on dirait aujourd'hui. À l'époque, on devait dire ado, je ne sais même pas si on disait ado, on disait enfant.
Ça n'existait pas. C'est une invention,
oui, qui est assez récente. Mais donc, c'était un enfant et qui va traverser la guerre et en sortir homme. Donc, c'est très curieux. Et or, il en sort homme, il en sort différent. Il en sort totalement démilitariste, révolté contre cette boucherie, révolté contre beaucoup de choses. Et en même temps, très certainement, avec une liberté de ton et de mœurs, si on puisse parler de liberté de ton et de mœurs à cette époque-là, mais qui va lui donner un destin tout à fait différent. Ce qui fait que Louis Aimier, alors autant on peut dire que du point de vue de l'écriture que Jean Bal, moi j'ai été suffoqué par justement cette écriture de Jean Bal et cette corrélation qui existe entre ce que nous connaissons aujourd'hui de Bordeaux, ce Bordeaux que l'évoque, alors qu'ils n'ont normalement rien à voir l'un et l'autre. Et pourtant, alors à moins que ce soit Jean-Marie qui ait fait magnifiquement ce trait d'union, ce dont je ne doute pas une seconde.
Non, c'est tout le temps, c'est ce qu'on pense tout le temps quand on lit ce texte.
C'est incroyable, ça c'est vrai, c'est vraiment incroyable. Mais en revanche, pour ce qui concerne Louis Aimier, je dirais plutôt que Louis Aimier a une écriture qui n'a rien à voir ni avec la contemporanéité, ni avec la modernité, ni avec le passé. C'est une écriture que j'oserais qualifier pour certains des textes qu'il a pu livrer assez universel. C'est-à-dire qu'il y a des fulgurances qui passent le temps. Il y en a d'autres qui, naturellement, sont un peu jaunis, sont tombent un peu en poussière. Je pense que certains de ces poèmes.
Mais pas dans Espagne, naturellement.
Pas dans le poème La prière du Gréco. Très curieusement, pas du tout dans ces textes en prose qui ne sont pas des romans, mais qui sont ceux que Xavier a publié dans l'Aquitaine au pluriel, et qui n'est d'ailleurs pas le roman, de mon point de vue, mais qui sont davantage les reportages qu'il faisait, qui étaient des reportages, qui étaient des regards sur Bordeaux de l'entre-deux-guerres.
Certains issus de la Petite Gironde.
Issus de la Petite Gironde, enfin, des reportages pour la Petite Gironde, avec une liberté quand même qui était un peu curieuse, mais enfin bon. J'imagine que c'était pour la Petite Gironde dimanche, dont je me suis aperçu qu'elle existait. Mmh. Une Petite Gironde dimanche, autrefois, et qui était au caractère un peu littéraire, et dans lequel on tolérait des textes et de cette longueur et de ce genre-là. Et donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui me frappe beaucoup, c'est de m'apercevoir, à travers ces deux générations, alors, de ce point de vue-là, ce que fut la richesse intellectuelle de Bordeaux. Enfin, c'est quelque chose d'inimaginable. Si l'on conçoit... Ça me fait penser, ces deux générations de Bordeaux, de Bordelais qui se suivent, il faut penser à ces deux générations espagnoles. La génération de 92, puis celle qui suit, qui est la génération des Lorca, Buñuel, Salvador Dalí, etc. etc. Bon. Or, ces générations-là, on les retrouve à Bordeaux d'une manière extrêmement curieuse. C'est-à-dire qu'il y a la génération de Jacques Rivière, Bauriac, etc. Et ensuite, il y a une autre génération de l'entre-deux-guerres qui survient, qui a fait l'objet d'ailleurs des recherches dont Jean-Marie évoquait, que Xavier a effectuées pour le compte de l'université de Pau, je crois, et qui donc a été saluée très récemment, et qui est admirable. C'est un travail remarquable. Non, mais vraiment, c'est un travail de référence. Non, mais c'est vrai.
Oui, parlant
sur ce
de
qu'a
Louis
été cette vie intellectuelle. Et c'est là où je vais revenir à Jean-Marie, et ce n'est pas du tout par une quelconque flatterie ou quoi que ce soit.
Aucune espèce d'amitié, ni de...
Non. Mais non, mais vous allez voir. Jean-Marie, tu vas voir pourquoi je le dis. Parce que, outre le fait que Louis Aimier a joué un rôle prépondérant dans tout ce qui a été cette vie intellectuelle de l'entre-deux-guerres, il se trouve que c'est chez ton père que cette génération, je parlais de la génération de Louis Aimier, se retrouvait, et notamment à travers les conférences du jeudi littéraire. Et cette vie intellectuelle dans une ville comme Bordeaux à l'époque, on ne la soupçonne pas aujourd'hui. On imagine une ville endormie, ce n'était pas du tout une ville endormie. Comment voulez-vous, enfin, c'est quand même incroyable, moi, c'est des choses qui sont frappantes chez Louis Aimier, comment voulez-vous qu'à 19 ans, c'est quand même incroyable, un garçon de Bordeaux puisse être abonné à tout ce qui se faisait, mais de mieux, mais de plus branché, comme on peut dire aujourd'hui, des revues littéraires de l'époque, puisse, parce qu'il connaissait l'espagnol et qu'il était extrêmement intéressé par l'Espagne, découvrir un poète, mais totalement inconnu en France, et il a fallu 5 ans après pour le découvrir, qui était Ramon Gomez de la Serna, qui a ensuite été traduit par Valérie Larbeau, et qu'à 19 ans, il s'amuse de traduire quelque chose qui, normalement, de l'ordre de l'intraduisible, qui s'appelait Gregarias, qui était mal traduit ensuite en France, selon de Criailleries. C'était ça, quand même, cette vie intellectuelle que l'on retrouve à travers Louis Aimier. Et je comprends, à travers ça également, ce qu'a dû être ensuite sa peine, et très certainement son désespoir, de ne pas se voir reconnu, certainement, à sa juste valeur, sinon à la juste valeur de ce qu'il a pu laisser comme écrit, au moins la juste valeur des capacités qu'il avait au moins essayé de mettre en œuvre, de réunir.
Alors, Espagne, peut-être Espagne. Peux-tu
Est-ce qu'on peut juste citer une des phrases à propos de ta dernière phrase, une phrase de Max Jacob qui lui conseille de ne pas s'aigrir contre les retards de la gloire. Pas s'aigrir contre les retards de la gloire. Au fond, elle n'est jamais venue.
Non, pour lui, elle n'est jamais venue. Enfin, ça a dit lui donner des conseils étranges, parce qu'il disait, puisque vous voulez être écrivain, être journaliste, tranchez-vous une main. C'était quand même un peu curieux comme conseil.
C'est pas, il ne lui disait pas ça. Enfin, il lui disait écrivez vos petits articles d'une main et de l'autre, écrivez vos poèmes.
La phrase exacte,
il avait un certain mépris pour l'écriture journalistique.
Oubliez ce que fait votre main quand arrive au journal, les premiers lauréats, etc. Non, mais pour en...
Alors, Espagne.
Donc, Espagne. Ouais. Espagne, c'est un livre qui est en même temps étrange et qui est un livre qui est fascinant. Fascinant et infini. Parce que, très rapidement, parce que comme vous, j'imagine ici, vous connaissez à peu près tous ce que fut Louis Aimier. Louis Aimier a été, en fait, pour moi, Louis Aimier, c'est le plus espagnol des écrivains bordelais. Ou le plus bordelais des écrivains espagnols, vous le prenez dans... Comme ça vous arrange, et de toute façon, ça fonctionne. C'est quelqu'un qui a été élevé dans un univers espagnol par l'intermédiaire de sa mère, qui était originaire de Raqqa, et qui l'a mené dans les quartiers qui ont continué très longtemps à exister, qu'on a connu jusqu'à dans les années 80, qui existaient Cours de l'Isère, rue La Fontaine, autour des Capucins, etc., etc., et qui étaient où il y avait une véritable vie espagnole, où il y avait des bars où on parlait espagnol, et encore, début des années 80, ça existait. Donc lui, il a connu ça dans sa prime enfance. Il a connu ça ensuite pendant ses vacances, car son père l'a mené à Saint-Sébastien passer ses vacances avec sa mère. Et très rapidement, il est parti en Espagne. Il est parti en Espagne dans les années 30, au début des années 30, et ça a été un coup de foudre. Et ça a été la découverte de ce qu'il, d'une certaine manière, il connaissait déjà, mais qu'il pouvait vérifier. Et il va certainement, dans une inspiration barésienne, naturellement vers Tolède, vers Madrid, et surtout, plus étrange, enfin encore, que c'était un lieu de destination obligatoire à l'époque, vers l'Escorial, ce palais mortifère construit par Philippe II sur les plans du grill sur lequel Saint-Antoine a subi le martyr.
Saint-Laurent
a subi le martyr. Et donc, cet Escorial, qui est quelque chose de tragique à la fois et d'assez éprouvant, il raconte d'une façon singulièrement exacte. Et très souvent, il trouve très certainement beaucoup de lui. Or, ce premier livre, Espagne, il le publie pratiquement d'un trait sur le conseil pressant d'un ami. Et puis ensuite, la guerre civile arrive, 36. Naturellement, il ne peut pas revenir en Espagne jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la guerre. Il revient en 47. Et pendant la guerre, il a une réflexion sur l'Espagne qui donne lieu à une seconde Espagne. Il ajoute quelque chose qui est une sorte de postface qu'on ne trouvera pas dans cette Espagne-là, qui est une Espagne rêvée. Or, cette Espagne rêvée, qu'il appelle Espagne Castissa, qui est très curieuse parce qu'en fait, il y reprend tout ce qu'il aime dans l'Espagne. Or, ce qu'il aime dans l'Espagne est très différent. Ça va des plateaux arides de Castille au flamenco andalou. Et ça ne peut pas coïncider vraiment les uns avec les autres, d'autant qu'à cette époque-là, il ne connaît pas bien l'Andalousie, ou pratiquement pas. Et ensuite, dans un troisième temps, il réécrit Espagne, qu'il publie en 1954, en enlevant Espagne Castissa. Et d'après ce que m'a confié Henri Amourou, avec qui je me suis très très longtemps entretenu, très souvent entretenu à propos de Louis Aimier, car il avait très bien connu Louis Aimier à partir de 1942, quand Henri Amourou était rentré à la Petite Gironde, où Aimier l'avait pris sous son aile, et qu'il a suivi jusqu'à sa mort, jusqu'en 1967, en tant qu'alors là, qu'il était à cette époque-là, rédacteur en chef de Sud-Ouest, non pas directeur, car c'était encore Jacques Lemoine. Et il a très très bien connu cet homme-là, qu'il a accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Et il me racontait tout de même que Louis Aimier voulait réécrire une quatrième version d'Espagne. Donc c'est un livre qui a cela de fascinant, c'est qu'il n'est jamais terminé. C'est un livre qui tient une projection dans l'espace, une projection de l'Espagne, et qui, d'une certaine façon, nous ramène à ce que nous disions finalement tous les trois, c'est que c'est un livre qui est extrêmement étonnant parce que ces Espagnes-là, telles que les raconte Louis Aimier, alors qu'elles ont disparu, sont en même temps tout à fait modernes et tout à fait vivantes, au point que quand je lis Louis Aimier de ces Espagnes écrites en 1935, il me semble voir l'Espagne que je connais et que j'aime.
Oui, et il faut rappeler aussi que Louis Aimier se destinait d'abord à être compositeur, musicien. Il a été donc journaliste, écrivain, poète, romancier, pas tout à fait réussi, mais voilà, grand prosateur malgré tout. Et sur la fin de sa vie, il s'est exercé un peu aux arts plastiques. Et ce livre Espagne, qui est à mon avis est son plus beau, à travers ce livre, transparaît voilà, cette multiplicité de sensoriel et d'expression. Il y a des passages qui sont comme des images. Il y a des photographies d'ailleurs qui ont été publiées, retrouvées d'après les originaux. Parfois, c'est presque un mouvement de caméra. Et c'est une phrase très musicale aussi, très sensuelle.
Non, mais Louis Aimier, je l'ai employé à deux reprises d'ailleurs dans les deux préfaces successives que j'ai pu faire pour ces ouvrages-là. Louis Aimier était un homme qui était tranché en deux. C'est pour ça que j'employais de métaphore de la main coupée qui me paraît convenir finalement à ce que va devenir sa vie. C'est un homme tranché à deux pour de multiples raisons. Il était, Il était un notable bordelais, même si c'était un notable artistique bordelais, mais culturel bordelais. Mais il était en même temps homosexuel et homosexuel de la nuit et des nuits compliquées de ces années-là. Enfin, j'imagine, puisqu'il a eu ensuite quelques ennuis avec la police et avec la justice, d'une certaine façon. C'était un homme qui voulait être poète, mais qui était journaliste. C'était un homme qui aurait voulu être compositeur, mais qui ne l'a pas été. C'était un homme qui voulait être poète, mais qui voulait être romancier, etc., etc. Et donc, il avait à la fois ce côté austère, un peu de janséniste, un peu de... J'avais employé, parce qu'il m'avait fait penser, l'un de ses portraits m'avait fait penser à l'une des photos de Janco que j'avais vu vieillissant. Et Janco avait une admiration sans borne pour les aumôniers militaires parachutistes. Et Louis est mis très curieusement avec sa brosse ronde, puisque il avait une brosse ronde, c'était une façon de se coiffer en brosse. Cette brosse ronde avait quelque chose, alors qu'il ne le devait pas l'être, le pauvre, de aumônier militaire parachutiste. Et donc, ce côté austère contrastait terriblement avec l'appétit de jouissance que cet homme avait en lui. Ce qui fait que, qu'est-ce qu'il a trouvé dans l'Espagne? Qu'est-ce qu'il traduit magnifiquement dans ce livre-là? Qui est augmenté, parce que le dernier livre de 1954 est augmenté de son voyage en Andalousie, de ses voyages surtout dans les trois villes du Sud, qui sont Séville, Grenade et Ronda. Et qu'est-ce qu'il retrouve dans ces deux Espagnes? Il retrouve toute son ambivalence, il retrouve tout son côté, je dirais pas religieux, parce que je ne pense pas qu'il était croyant, mais au moins il était mystique. Et il avait un mysticisme comme ça, extrêmement... j'allais dire qu'il était naturel. Et il avait en même temps cet appétit de la vie que l'on retrouve dans ces deux Espagnes, que l'on trouve aussi bien sous les orangers du jardin à côté de la Casa de Pilata à Séville, ou que l'on retrouve à côté de l'Alhambra, la Granada, et en même temps, ce côté sombre et renfermé du palais bâti sur le grill sur lequel
Saint-Laurent
vit le martyr.
L'Escorial. Ouais. Voilà. Jean-Claude Lasserre avait cette belle expression pour parler du portrait que Jacques Belobre avait fait de Louis Aimier. Il parlait d'un profil de moine espagnol. Voilà. Et c'est vrai que...
Plus
que de para.
C'est le moine de la Bandera. Alors.
Dans Amourou, dans son livre sur Louis Aimier, cite un texte de Paul Guinard, je crois, sur les visages du Gréco. Et les visages du Gréco, c'est exactement le visage de Aimier, de l'aumônier militaire.
En tout cas, il y a de très beaux passages sur le Gréco qui étaient...
Est-ce qu'on a le temps ou on est très pris par la...
Pourquoi ? Pour vous lire l'extrait ?
Non, l'extrait, mais j'aurais voulu poser une question à Yves sur...
Je vous en prie, Jean-Marie. Oui, allez-y. J'ai une question pour vous tout à l'heure aussi.
Ah bon, d'accord. j'ai le sentiment...
Moi, j'en ai une pour Jean-Marie.
Non. on n'aura plus le temps.
Je ne
l'avais
pas.
je trouve... je trouve que l'Espagne est un livre admirable. Mon père, dont on a parlé plusieurs fois, adorait ce livre. C'est lui qui me l'a fait lire. C'est un livre magnifique. Mais j'ai le sentiment qu'aussi bien chez Yves que chez Xavier, il y a une espèce de réserve, de réticence, je ne sais pas, vis-à-vis de Aimier poète. Or, d'abord, ce qu'il a voulu être, c'est un poète. Et je trouve que c'est un très grand poète, même si c'est un poète. Je trouve que Invention de la mort, Invention de l'amour, etc. Je trouve que ce sont des textes... la prière du Gréco, évidemment. Bon, ça l'agaçait parce que tout le monde connaissait la prière du Gréco. Il disait « c'est mon vase brisé ». Ça figurait dans les anthologies. Mais c'est un poète magnifique. Et je vous sens en retrait.
Moi, je ne suis pas du tout en retrait. C'est un poète magnifique si l'on considère certains de ses poèmes. Mais ça, on ne peut pas dire que ce soit un poète magnifique. Bien sûr, quel est le poète magnifique sur l'ensemble de son œuvre, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment des choses qui sont inégales. J'ai relu récemment ce qu'on nous a offert quand nous avons fait cette conférence l'autre jour, sur son poème sur Bordeaux. Oui, certes, mais enfin, il n'y a pas écrit Louis Aimier, on ne peut pas dire quand même que ce soit quelque chose qui vous transporte, qui soit transcendant. Je trouve qu'il y avait ce côté un peu inégal, qui peut s'expliquer d'ailleurs par le long silence qu'il a observé, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, pendant
Je pense que la poésie de Louis-Mi mériterait une heure au moins à part entière, puisqu'il y a quand même une évolution dans sa poésie. Et c'est vrai que la poésie, il était avant tout poète hein, pour lui. Et il y a eu le moment de la guerre a été un moment douloureux. Et la poésie, sa poésie s'est transformée véritablement. Et là, il y a eu voilà, Jean Balde, La maison au bord du fleuve. De la sincérité envers soi-même de Jacques Rivière et Espagne de Louis Aimier. Lisez-les, offrez-les, faites-les lire. Et merci à nos trois invités, préfaciers, intervenants.